Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Victor Julien Laferrière, bonjour.
Bonjour.
J'ai eu l'occasion de vous recevoir à quelques reprises, toujours avec un immense plaisir, et c'était pour parler beaucoup de musique de chambre, et là on va parler beaucoup d'orchestre, puisque vous avez constitué en 2019 un orchestre, Consuelo, inspiré du roman éponyme de George Sand. C'est quoi? C'est une passion, George Sand?
Et tout simplement un coup de cœur pour le roman que j'ai découvert à 16, 17, 18 ans, quelque chose comme ça, et qui m'a fasciné parce que je lisais beaucoup de romans de cette période-là, et donc j'avais remarqué que c'était une anomalie dans le fait qu'elle focalise son roman sur la musique, sur le monde musical de son époque. Et donc ça m'a beaucoup intéressé à l'époque, je me suis souvenu de ça quelques années après.
Et donc l'orchestre, vous avez décidé, pourquoi? Parce que vous aviez eu en 2017 le prix Reine-Elisabeth de violoncelle qui vous a, enfin vous aviez déjà une notoriété, mais qui vous a révélé encore plus un certain nombre de choses qui vous ont mis sous les feux de la rampe. Et puis vous avez décidé, c'était quoi? C'est un vœu de toujours de diriger l'orchestre
En fait, exactement. Avant de me passionner pour le violoncelle, je voulais vraiment être chef d'orchestre. C'était ma première passion, l'orchestre sous toutes ses formes en fait. D'une certaine manière. J'étais clarinettiste et violoncelliste. Entre l'âge, on va dire, j'ai commencé la clarinette à 4 ans. J'ai arrêté quand j'avais 12 ans, mais du coup, ça m'a permis de faire quelques stages d'orchestre aussi dans cette position-là, de clarinettiste. Et c'est un rôle très différent du violoncelle. Et c'est vrai que mes premiers professeurs, à l'époque, c'était assez clair, en tout cas dans nos rapports. Peut-être qu'ils se souviendraient encore maintenant qu'ils râlaient de mon manque d'attention au violoncelle ou de précision, ou plutôt dans mon apprentissage du violoncelle, parce que j'étais souvent un petit peu plus intéressé ou attiré par la direction d'orchestre.
Et vous aviez fait du violoncelle dans l'orchestre, Victor Julien Laferrière?
Ah oui, absolument. C'est l'une des grandes joies du violoncelle, c'est qu'on puisse justement être tour à tour basse continue ou au sein des grandes masses orchestrales, et puis ensuite évidemment avec notre magnifique répertoire soliste également.
Alors moi je vous ai connu surtout comme chambriste, avec notamment le trio Les Esprits aux côtés d'Adam Laloum et Missa Yang. Vous avez enregistré des disques, notamment Brahms. Alors Brahms, c'est vraiment... j'allais utiliser le mot idole, mais comment on peut le qualifier pour vous, Brahms? Enfin, c'est vrai que Brahms, c'est le violoncelle et vous avez fait des beaux cadeaux.
Mais en fait, c'est ce genre de situation où on se rend compte presque après coup que c'est un compositeur qui nous suit, auquel on s'est attelé très très souvent dans plein de rôles différents là aussi. Et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, un peu moins d'une dizaine, il y a 7 ou 8 ans, j'avais organisé comme ça une intégrale de la musique de chambre de Brahms sur 3 week-ends dans ma ville natale de Montreuil, avec plein d'amis, où je tenais toutes les parties de violoncelle. Il y a 24 pièces qui comportent
24 chefs-d'œuvre.
C'était avec Pierre Fouchonneret, et on avait fait ça tous les deux, on avait porté cette intégrale-là. Et d'une certaine manière, en souriant, je me dis toujours que je vais essayer de compléter l'intégrale sur une échelle plus grande, en incluant tout ce à quoi je peux avoir accès. Donc là, évidemment, je vais pas me mettre à chanter les leaders, mais en tout cas, que ce soit à l'intérieur de l'orchestre ou à la tête d'un orchestre, que ce soit à la musique de chambre, les concertos, enfin tout ce que je pourrais, tout ce à quoi je pourrais avoir accès, je ne veux rien me refuser. Et même les transcriptions, s'il faut en passer par
oui,
là.
Oui, il y a des transcriptions leaders,
de leaders, mais surtout il y a la première sonate pour violon que Brahms lui-même a transcrite pour violoncelle et piano. Il y a certaines choses comme ça. Peut-être le trio avec cordes, j'ai ça dans un coin de ma tête aussi. Je pourrais peut-être m'y atteler.
Mais c'est vrai, quand on réfléchit à Brahms au violoncelle, bon, non seulement les deux sonates pour violoncelle et piano, mais même le début du premier trio, enfin il y a tellement de choses sublimes, ou même le troisième quatuor avec piano, enfin oui. Le passage au violoncelle.
Si vous ajoutez le début du deuxième mouvement de la deuxième symphonie, par exemple, c'est ce thème emblématique, ou le troisième mouvement de la troisième symphonie, enfin il y a aussi dans sa musique orchestrale, il fait la part belle au violoncelle énormément. Mais en général, pour beaucoup beaucoup d'instruments, Brahms a écrit des œuvres qui sont, on pourrait presque considérer d'une certaine manière que c'est la quintessence de notre instrument, quoi, d'une certaine manière. Et je pense que ça fait ça pour pas mal d'instruments différents. Donc il avait une manière aussi de comprendre comment tirer des choses incroyables de chaque instrument.
Sans compter son concerto pour violon et violoncelle, voilà. Il y en a d'autres, des concertos pour violon et violoncelle d'ailleurs, en vous parlant je réfléchis.
Il y en a d'autres, Victor, de cette importance, pas forcément, mais oui, figurez-vous qu'il y en a déjà sous Vivaldi. Ensuite, je pense qu'il y en a un d'un fils Bach, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas envie de.
C'est quand même étonnant qu'il n'y en ait pas prénom, plus. Mais... Parce qu'après ce chef-d'œuvre de Brahms, on aurait pu penser que ça donne des idées.
Je pense qu'il y en a aussi ensuite au XXe siècle, mais il n'y en a pas tant que ça. Vous avez raison.
Oui, des chefs-d'œuvre de cette envergure.
Il y a, une œuvre que j'aime beaucoup, c'est La Muse et le Poète de Saint-Saëns.
Saint-Saëns, oui.
Qu'il écrit assez tard dans sa vie, je crois, au début des années 20. Il connaissait forcément, je pense, le double concerto de Brahms.
Donc Brahms, une personnalité, puisque en fait, vous créez cet orchestre Confello, et puis votre premier disque qui paraît ces jours-ci pour le label Minerare est consacré à deux chefs-d'œuvre qui sont finalement très peu dirigés. C'est les deux sérénades de Brahms qu'il a composées avant sa première symphonie.
C'est exactement ça, c'est exactement contemporain dans la gestation du premier concerto pour piano, qui est considéré maintenant, je crois, unanimement comme un chef-d'œuvre.
Mais qui n'a pas marché du tout à sa création.
C'est une sorte, à mes yeux, d'anomalie totale que les deux sérénades ne soient pas mieux considérées, même si donc elles sont très très différentes, les deux entre elles. La première a eu une gestation compliquée, c'est-à-dire qu'elle a probablement vu le jour sous une forme pratiquement de musique de chambre. On parle peut-être d'une forme de nonette, ou en tout cas d'un tout petit orchestre, entre 10 et 20 musiciens, éventuellement, avant ensuite, à la fois dans le nombre de mouvements, l'équilibre des mouvements, elle a connu plein d'étapes successives avant d'arriver à la forme actuelle. Et la deuxième a été vraiment conçue telle qu'on la connaît maintenant, c'est-à-dire dans une forme un tout petit peu plus peut-être équilibrée, avec seulement 5 mouvements contre 6 dans la première sérénade, et par contre avec une originalité incroyable dans l'instrumentation, puisque c'est un orchestre un peu plus réduit pour la seconde sérénade, où Brahms se passe des violons. Il se passe également de la timbale et des trompettes, mais c'est vrai que la plus grande différence, la chose la plus étonnante quand on voit arriver l'orchestre sur scène, c'est qu'on ne voit pas le pupitre de violon. C'est un peu un fantasme, je pense, de beaucoup de musiciens, c'est d'arriver à se passer des violons, soit dit en passant. Mais non, blague à part, en tout cas, ça donne une texture, à la masse orchestrale, une sorte à la fois de délicatesse et de profondeur dans le son qui est extrêmement fascinante, je trouve.
Mais alors, où est la poule, où est l'œuf, Victor Julien Ferrière? C'est quoi? C'est le répertoire d'orchestre qui vous a mené à diriger l'orchestre? Le répertoire du violoncelle, il est gigantesque, ne serait-ce qu'en musique de chambre, vous avez de quoi faire, et puis vous avez aussi cet instrument auquel vous donnez tant et qui vous donne aussi beaucoup. Merci. Et c'est quoi, vous avez besoin d'une extension vers l'orchestre?
Je pense que ça a toujours été une grande passion, le répertoire orchestral, et l'orchestre en général sous toutes ses formes. J'ai la passion de l'orchestre, on pourrait dire. C'est comme ça que je l'explique, parce que c'est aussi ce qui me plaît dans l'orchestre, c'est que c'est une expérience très généreuse. En général, on voit que les jeunes publics, les gens qui peut-être n'ont pas une habitude hebdomadaire d'écouter de la musique classique, souvent, il y a forcément quelque chose qui va leur plaire dans un concert orchestral. Quelquefois, ça va être une partie plus que l'autre, certains timbres auxquels ils seront plus sensibles.
Et puis, donc, déjà, c'est impressionnant de voir exactement un orchestre.
Ouais. Donc je pense que je suis tout simplement tombé sous ce charme-là très jeune, et que j'ai toujours gardé cette passion au fond de moi, que ce soit en tant que spectateur, que ce soit en allant beaucoup écouter des répétitions en tant qu'étudiant, ou jeune, très jeune étudiant d'ailleurs déjà, aller écouter des cours de direction. Et puis la direction d'orchestre en tant que telle, c'est quelque chose aussi d'assez fascinant, c'est tellement complet. Ça ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, direction d'orchestre, parce que ça dépend quel orchestre on dirige. Si on dirige un orchestre d'harmonie, un orchestre de jeunes, un orchestre d'amateurs, un orchestre professionnel, si on dirige un orchestre professionnel qui a joué la pièce ou qui ne l'a pas joué, enfin tout ça, c'est presque des métiers différents. Donc en tout cas, tout ça me passionne énormément, et en aucun cas je vois ça comme une sorte d'attention qui serait déviée du violoncelle. Je trouve que ça se complète totalement.
Mais vous allez aller travailler avec des chefs d'orchestre, ou alors c'est à force de jouer en orchestre et de...
C'est un petit peu tout ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de continuité depuis d'autant que je m'en souvienne, comme on dit, et que c'est la direction d'orchestre, c'est aussi une banque de données de milliards d'heures, enfin en tout cas de millions de minutes passées à se pencher sur ce sujet-là, à écouter à écouter l'orchestre sous toutes ses formes. Et puis oui, en effet, je prends des cours, j'ai pris des cours, j'ai fait des académies. Voilà, j'ai eu l'impression en tout cas de pas avoir vraiment le temps. C'est-à-dire que j'ai commencé à donner des concerts assez tôt, en plus en étant un peu écartelé entre plusieurs pays, puisque je commençais à faire des concerts plus tôt en France, alors que j'étudiais déjà le violoncelle à l'étranger. Donc j'ai pas réussi à combiner ça avec une vraie classe au sens de 4 jours par semaine passés. À l'université pour étudier la direction d'orchestre.
Aller en Finlande.
Je pense que voilà, j'aurais probablement adoré. Je ne sais pas si j'aurais adoré le faire, mais j'aurais adoré l'avoir fait. C'est une petite nuance qui a son importance. Mais en tout cas, j'ai pris toutes sortes de cours de beaucoup de professeurs différents et ce n'est pas fini. Je pense que c'est à très long terme. Je suis encore, d'une certaine manière, très jeune pour la direction d'orchestre.
Alors, je me suis interrogé en préparant cet entretien. Je me suis demandé quels étaient les chefs d'orchestre qui avaient été violoncellistes. Alors vous me rappeliez qu'il y avait Toscanini, j'avais complètement oublié, et John Barbirolli, et actuellement Klaus McAlley,
exactement,
dirige l'orchestre de Paris,
Michael Sanderling.
Oui, mais il n'y en a pas énormément quand on réfléchit.
Il faudrait faire des statistiques. Il me semblait qu'il y en avait un peu plus que par exemple des violonistes qui étaient devenus
chef d'orchestre,
mais c'est évidemment le plus grand nombre, ce sont des pianistes ou des percussionnistes, je crois, qui sont devenus ensuite.
Parce que les percussionnistes, ils sont à un emplacement dans l'orchestre.
Certainement.
Ils ont une vision de la direction.
Voilà, ce qui apporte de l'eau au moulin que je mentionnais plus tôt, de toute cette banque de données qu'on. Ça paraît un peu facile de dire ça, on se dit, bon, s'il suffit d'assister à des répétitions pour devenir chef, évidemment que c'est pas du tout aussi simple que ça, mais c'est évidemment la passion préexistante et puis tout le diagnostic qu'on peut faire en permanence, parce que c'est beaucoup un métier de diagnostic, justement. Tout ça, ça peut être nourri par ces milliers d'heures passées en répétition.
Vous auriez pu vous dire, je vais diriger des orchestres, et puis je vais diriger des orchestres déjà constitués. Mais vous avez décidé de constituer
faire,
un orchestre.
Je le fais de temps à autre.
Oui, mais vous avez commencé par constituer un orchestre.
Alors ça, c'est comment dire, se pose la problématique déjà de comment concrètement concrétiser sa passion par la direction d'orchestre. Ça, c'est évidemment le point de départ. Et ensuite vient aussi la deuxième chose. Tout de suite après, c'est la culture qu'on a musicalement et moi ma culture. Certainement, j'ai grandi avec des exemples tels que, on pourrait dire, Arnoncourt, John Eliot Gardiner, Pierre Boulez dans un autre genre.
Des gens qui viennent d'un autre univers en fait.
Et c'est aussi des gens qui ont monté leur orchestre et qui se sont créés une identité musicale, une identité sonore, identité orchestrale de fait, autour d'un ensemble qu'ils ont créé, souvent à la force du poignet. En partant, voilà où il faut.
Enfin, Arnoncourt, il a quand même commencé dans le Philharmonique de Vienne.
Au Symphonique de Vienne.
Philharmonique. Excusez-moi pour cet égarement.
Il a créé le Concentus.
Oui,
pour le coup. Alors là, en plus, à une période où je pense vraiment pas qu'il ait profité d'un quelconque vent dans la poupe.
Oui, à l'époque, c'était assez mal vu. Ces instruments d'époque quand il a commencé.
Exactement. Et en fait, c'est cette idée de mettre les choses dans l'ordre. Donc lui, par exemple, pour prendre Arnoncourt, j'avais toujours été fasciné par son parcours qui a commencé dans les bibliothèques par la recherche, ensuite à vouloir mettre en musique cette recherche, concrétiser sa recherche. Et je trouve quelque chose de très sain là-dedans. Et que ce soit François-Xavier Roth plus récemment ou d'autres, ou Pierre Boulez, j'imagine, au domaine musical et ensuite à l'intercontemporain, c'est des démarches que je trouve particulièrement saines.
Et alors vous, au niveau du répertoire, donc là vous commencez avec cet enregistrement des deux sérénades de Brahms, des œuvres qu'on entend peu. On parlait hors micro des enregistrements, c'est pas foisonnant. Il y a
pour du Brahms, non?
Oui. Il y a Claudio Abbado, István Kertész, voilà. Mais c'est pas.
Alors
c'est formidable,
il y a,
mais il y en a pas.
Ricardo Chailly, au Gewandhaus de Leipzig.
Ah oui. C'est beau aussi.
Elles existent. Ces versions existent et il y en a tout de même quelques-unes.
Par rapport aux symphonies, c'est quand même pas.
Oui, je plaiderai pas l'œuvre inconnue totalement, mais c'est sûr que c'est très difficile de comprendre des œuvres qu'on peut déjà qualifier d'une première maturité de Brahms. Qui lui tenait très à cœur, puisqu'il a ensuite supervisé des éditions des années après, alors qu'on sait qu'il a détruit beaucoup de ses œuvres ou qu'il en a mises sur la touche. Mais il les a reprogrammées dans des concerts viennois, quelquefois des années après leur création. Il a supervisé dans les moindres détails les éditions successives. Il a remanié aussi, par exemple, la deuxième sérénade, comme il l'a fait pour d'autres de ses œuvres importantes plus tard. Donc je pense que dans le cas d'un compositeur comme comme Brahms, ça me paraît totalement une anomalie de pas lui faire confiance sur ce coup-là et de les juger trop vite en besogne, parce que c'est des, faut pas s'y tromper, c'est des, je pense, des grandes
œuvres. Des grands chefs-d'œuvre. Ouais. Alors, vous donnerez ces deux œuvres dans le cadre des, notamment des Folles Journées de Nantes. Alors, il y aura la première sérénade qui sera donnée lors d'un unique concert, enfin d'un concert qui remplit le concert, et la deuxième sera donnée avec le 27e concerto de Mozart avec Anne Kefelec. Alors là, pour le coup, les cordes, les violons se vengent, parce que le 27e concerto de Mozart, c'est tellement sublime ce qui se
Absolument.
Passe avec les violons.
Absolument, et ça me plaît énormément de confronter ces deux œuvres-là. Ça va être très très intéressant, je pense.
C'est une œuvre que vous avez déjà dirigée, le 27e concerto de Mozart ?
Pas encore. Au moment du concert à Nantes, je l'aurais fait quelques jours avant à Annecy, au Festival Variation Classique, mais je n'ai pas encore eu le bonheur de le diriger, ni même de jouer dans l'orchestre. Je l'avais découvert par Adam Laloum quand on avait le trio Les Esprits ensemble et qu'il l'avait joué pour les premières fois. Et voilà, j'étais évidemment tombé fou de cette pièce.
C'est bouleversant, ce concerto. Pas seulement parce que c'est le dernier concerto pour piano de Mozart, mais il y a un frémissement, enfin, quelque chose de très touchant, une intimité dans ce concerto.
Exactement.
Qu'il y a dans peu d'œuvres concertantes. Enfin, on doit être sur des œufs quand on dirige cette œuvre. Mais alors, vous aurez, à l'occasion des Folles Journées de Nantes, parce qu'on discutait aussi hors micro des musiciens qui constituent cet orchestre Concello, qui sont en général des chambristes aguerris.
Il y a
là, vous aurez comme premier violon Fanny Robillard.
Voilà. Il y a un mélange, en effet, de chambristes qui sont membres de quatuors, quintets, trios constitués, et ces ensembles dont ils font partie, qu'ils ont souvent créés, avec lesquels ils ont gagné des prix internationaux, sont on va dire leur attache de base, et ce autour de quoi ils organisent leur vie musicale. Et donc ça, c'est pour moi, c'est un grand bonheur ensemble de faire de la musique symphonique, parce qu'ils font pas ça chaque semaine, et donc ils ont un regard frais et une envie intacte de s'y atteler. Et puis il y a aussi pas mal de membres des grands orchestres français qui viennent faire de la musique avec nous, peut-être parce que c'est dans une ambiance différente de leurs habitudes, peut-être parce qu'on est en plus petit comité, peut-être parce qu'on fait un travail légèrement différent. Enfin, c'est pas à moi exactement de le dire, mais en tout cas, personne ne les force et ce sont les bienvenus, évidemment. Donc il y a un mélange entre les deux. Ce qui nous réunit, c'est évidemment avant tout l'envie de faire de la musique ensemble, de faire ce répertoire-là.
Oui, mais c'est ça. Mais alors, la relation que vous avez avec eux, c'est pas la relation que peut avoir un chef d'orchestre qui vient devant un orchestre symphonique qu'il ne connaît pas. Voilà, c'est des musiciens que vous avez réunis, que vous avez choisis,
voilà, c'est ça, c'est ce qui change,
ont choisi de venir, qui le font parce que eux aussi ils sont intéressés par ce répertoire orchestral, j'imagine.
Oui.
Donc la relation que vous avez avec eux, c'est pas comme si vous arriviez avec votre baguette devant 110 musiciens que vous ne connaissez pas.
J'arrive avec ma baguette devant des musiciens. Ça y ressemble quand même beaucoup de l'extérieur, en fait. Les deux exercices, s'ils diffèrent, c'est dans des choses assez subtil de l'extérieur, évidemment, tous les codes sont là, les temps de répétition sont les mêmes. En général, pour l'instant, évidemment, on n'a pas forcément, on n'a pas les mêmes moyens, en fait, tout simplement. Donc, on n'aborde pas encore tout à fait toujours les répertoires à 100 ou 120 musiciens, évidemment. Mais tout de même, là, on monte jusqu'à 43 musiciens pour ce programme-là. En effet, ce qui change beaucoup, c'est la base du volontariat, d'une certaine manière. Et c'est le fait qu'on essaye de trouver une adéquation dans l'équipe pour que ça fasse la meilleure entente possible, à la fois musicalement et humainement.
Alors, j'ai eu le plaisir d'interviewer récemment un membre du Gewandhaus de Leipzig, et puis il me disait, un chef d'orchestre, en fait, dans l'orchestre, il y a 100 opinions différentes, et lui, il vient avec son opinion, et en fait, c'est son sentiment musical qui va primer. Sinon, il y a 100 idées de l'œuvre dans un orchestre. Mais vous, comment ça se passe? Vous instaurez ce rapport-là, ou il y a quand même un esprit démocratique? Ça ne doit pas être évident non plus.
De toute façon, ça a beaucoup changé partout, je pense. C'est-à-dire que de toute façon, dans la plupart des très grandes maisons d'orchestre, à Leipzig ou autre, le rapport entre le chef et l'orchestre a quand même beaucoup changé depuis 50 ans. Voilà, je pense. Mais en effet, il y a peut-être une sorte de côté participatif un petit peu plus développé dans un orchestre comme le nôtre. Mais je vais pas mentir, c'est pas une démocratie non plus, du tout. Et en effet, on peut voir, mon rôle, c'est aussi, c'est-à-dire qu'il y a un côté très pratique au rôle du chef d'orchestre auquel je suis très attaché. Il s'agit de faire gagner du temps donc de faire gagner de l'argent, parce que c'est la grande problématique de l'orchestre, c'est que la moindre minute de répétition est extrêmement chère. Donc déjà, il y a un côté très pratique comme ça. Et puis ensuite, il faut, comme dans toute position de leadership, prendre un nombre de décisions incroyables. Depuis la disposition des violoncelles, le recrutement évidemment, les programmes, combien de temps on aura besoin pour chaque pièce en répétition. Enfin, il y a la somme des choses qu'il faut décider est sans fin, d'une certaine manière. Et ensuite, il y a essayer d'amener à l'orchestre une conception cohérente de l'œuvre, passer un temps infini avec l'œuvre pour pouvoir ensuite être force de proposition et du coup fédérer de cette manière. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, c'est fédérer autour d'une conception.
Et vous, Victor, quand votre carrière était entièrement dévolue au violoncelle, vous baladiez avec des partitions d'orchestre que vous lisiez comme ça dans l'avion quand vous alliez donner des concerts
ou... Oui, je pense que j'ai toujours gardé ce rapport-là, mais c'est-à-dire que c'est un petit peu des deux. C'est à la fois quand je ne faisais pas encore de direction d'orchestre, j'avais aussi ce rapport avec les partitions, mais aussi, c'est aussi pour ça que j'ai été attiré par la direction d'orchestre et par le fait de concrétiser cette passion. C'est aussi pour passer encore plus de temps avec les partitions d'orchestre et m'y plonger d'autant plus.
Mais est-ce que ça change votre relation avec les chefs d'orchestre, justement, quand vous jouez en concerto? Est-ce que maintenant, le fait que vous soyez vous-même chef d'orchestre, vous avez décidé de...
D'une certaine manière, oui. Je ne sais pas si ça change encore fondamentalement, mais on verra dans le futur. Pour l'instant, dernièrement, par exemple, je me suis rendu compte que j'intervenis beaucoup en concerto et que ça devait être fatigant pour le chef, par exemple. Parce que j'ai remarqué, évidemment, moi-même, ayant dirigé des solistes, que c'est subtil entre le rapport que le chef a avec l'orchestre, l'apport du soliste, le fait de éventuellement pas contredire le chef. On le voit jamais comme ça, mais ça peut être tout de suite vécu un petit peu comme ça par le chef. Enfin, tout ça, je me suis dit que je devais pas être un soliste si facile que ça à certains moments.
Et non, à propos de soliste, alors entre deux concerts à Nantes, vous allez diriger un concert à Gstaad avec un autre immense violoncelliste qui est Steven Easterlis. C'est quelqu'un, il a été votre maître ou pas du tout?
Non, figurez-vous que je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est un immense musicien, immense pédagogue aussi.
Je pensais qu'en raison des différences de génération, c'était quelqu'un, ça avait été...
Peut-être dû, mais en tout cas, ça ne s'est jamais fait.
Enfin, ça va, vous êtes bien lotis de ce côté-là, on va en parler.
C'est vrai. J'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là, mais je l'ai encore jamais rencontré, donc je pense que ça va être en partie réparé, ce côté où j'ai beaucoup à apprendre de lui. J'aurais eu beaucoup à apprendre déjà dans le passé, et ça reste le cas. J'espère bien que ce sera réparé. On peut apprendre de chaque situation et de chaque collaboration, et voilà, j'espère que ce sera le cas.
Donc ça va être un concerto de Haydn.
Oui.
Donc ça, c'est une œuvre que j'imagine vous avez beaucoup joué,
oui.
Vous.
C'était un concept de Renaud Capuçon, qui dirige le festival, qui trouvait ça intéressant d'inviter un jeune violoncelliste qui devient chef d'orchestre pour diriger un grand maître du violoncelle, voilà, avec lequel il sait que le jeune violoncelliste a probablement grandi avec les enregistrements du grand maître, et c'est exactement ce qui s'est passé.
Alors, à propos de grands maîtres, vous avez eu deux grands maîtres, notamment Heinrich Schiff et Clément Sagan,
voilà,
qui sont aussi deux immenses violoncellistes et deux immenses chambristes, mais très très différents. Et pourquoi...
Absolument.
Vous êtes allé chercher leur enseignement en particulier?
Je pense qu'avec Heinrich Schiff, c'est-à-dire que j'étais pas forcément conscient de tout en amont d'aller chez lui, mais c'est vrai que je pense que a posteriori je me rends compte que c'était une figure absolument parfaite pour s'entendre d'une certaine manière avec l'adolescent que j'étais ou le jeune étudiant que j'étais. Je l'ai rencontré quand j'avais 18 ans, je pense. Et c'est sûr qu'il était chef d'orchestre lui-même. Il était, pour sa génération, plutôt extrêmement intéressé, presque tourné vers le monde du baroque. Il avait joué avec Arnoncourt, il avait enregistré avec Todd Koopman, il avait joué beaucoup sur Cordan Boyau également, et en même temps, il avait créé tellement de pièces de compositeurs de sa génération. Donc,
oui,
voilà.
On se souvient de l'enregistrement légendaire avec le Quatuor Berg.
Exactement, et tout ça en ayant une sorte d'éthique de la discipline et du travail de violoncelle qui était microscopique, qui allait dans les moindres détails. Donc je pense que tout ça faisait une sorte d'alliage et de mélange qui était presque... Moi, j'avais jamais rencontré ça nulle part. J'ai jamais rencontré ça nulle part depuis. Et c'était fascinant et ça a été génial.
Et Clément Sagan aussi, immense.
Clément Sagan, c'était un ancien élève de Heinrich Schiff. Donc ça, c'était très intéressant parce que je suis allé chez Clemens Hagen après avoir étudié pendant longtemps avec Henry Schiff. Donc d'une certaine manière, c'était une personne qui pouvait comprendre ce que c'était que de sortir de ces études-là avec un prof aussi marquant, aussi complet que Henry Schiff. Et avec certainement une parenté dans la culture musicale, une parenté dans la manière d'envisager la musique et le violoncelle, mais quand même tellement de différences humainement avec Henry Schiff que ça, l'enseignement n'avait rien à voir d'une certaine manière.
Alors, on parlait du fait que vous êtes violoncelliste et chef d'orchestre, et puis du fait que des musiciens, pianistes, percussionnistes ou autres deviennent chefs d'orchestre. Est-ce que ça change le son d'un orchestre? L'instrument d'où vient le chef? Alors peut-être que ma question elle est trop vaste ou...
Non, mais alors c'est surtout que je n'ai pas d'opinion tranchée sur le sujet et qu'il faudrait, il n'y a qu'une manière de s'en rendre compte, il faudrait faire un test incroyable d'écoute à l'aveugle sans savoir qui on écoute et comment, pour se rendre un petit peu compte.
Un instrumentiste à cordes va... Ça change rien au niveau du son ou de l'orchestre ou...
Je pense que dans la manière de faire travailler l'orchestre, ça va forcément changer des choses. C'est tellement vaste. Non, mais j'avoue que je saurais pas vous dire. À part évidemment des choses évidentes, qui est qu'on connaît mieux tel ou tel instrument, certainement on a une oreille qui est plus tournée vers telle ou telle section de l'orchestre. Je pense qu'on le veuille ou non. Au-delà de ça, si vraiment ça change réellement en fonction de l'instrument de départ, je peux pas vous dire.
Et donc, vous parlez des sérénades de Brahms, qu'on sera très heureux de vous écouter diriger aux côtés de cet orchestre Consuelo. Vous avez des fantasmes d'œuvres orchestrales ou alors c'est encore trop tôt pour en parler?
Non, mais il y en a tellement. C'est surtout le gros problème, c'est surtout ça. l'intégralité des poèmes symphoniques de Strauss, les 10 symphonies de Mahler et le Chant de la Terre, et en passant par toute la période romantique et ensuite Bartok, etc. Enfin, la question, c'est juste de savoir combien de compositeurs et de grandes œuvres je pourrais vous citer en un minimum de temps, mais c'est à peu près le seul challenge, parce que sinon, le nombre de fantasmes est presque indécent.
Mais alors, on parlait de ce répertoire d'orchestre, mais je trouve s'il y a un grief que je peux faire aux orchestres qu'on entend en France, c'est que par exemple les symphonies de Haydn ou tous ces compositeurs qui ont un tel legs classique, on les entend peu finalement.
Mais oui.
On a l'impression que les orchestres veulent rentabiliser le nombre de musiciens et nous mettre ce qu'on est très heureux d'écouter, des symphonies de Mahler ou de Richard Strauss, mais on a besoin aussi de ce répertoire classique. Est-ce qu'un orchestre comme le vôtre va vous permettre justement d'aborder ce répertoire qu'on entend moins dans les grandes institutions?
Je l'espère absolument. Il y a un écueil probablement qui explique un tout petit peu le constat que vous venez de faire et qui sera probablement aussi à ce stade un écueil un tout petit peu peut-être pour nous, c'est la spécialisation avec les instruments anciens. Donc maintenant, il y a peut-être de fait, et malheureusement c'est pas forcément notre intention, mais il y a de fait quelquefois des chasses gardées qui se créent, notamment parce que par exemple, moi je suis certainement en plein dans ces contradictions, c'est-à-dire que j'adore aborder ce répertoire au concert, mais je n'envisagerai pas d'enregistrer ce répertoire sur cordes modernes par exemple. J'ai trop grand dit avec les cordes en boyau, je mentionnais ça.
Une sœur en plus qui est une grande violoniste qui joue musique baroque.
Mais oui, et c'est vrai que par exemple, oui, je pense que ça doit se passer comme ça pour pas mal de chefs d'orchestre ou de musiciens. Maintenant, on est dans une position un tout petit peu inconfortable où on aimerait s'y atteler. Et puis en même temps, on a bien conscience qu'on aime énormément les cordes en boyau. C'est pas facile d'avoir un orchestre qui fait les deux, qui fait tout. C'est le cas des siècles ou d'autres orchestres de ce type, mais c'est pas si facile en général de combiner tout ça.
Oui, mais enfin, quand on entend une symphonie de Haydn jouer sur des instruments qui ne sont pas des instruments d'époque, on est heureux aussi.
Mais oui, absolument, complètement.
Enfin, je pense que Bach au piano nous rend aussi heureux que Bach au clavecin.
Oui, c'est...
enfin, je ne veux pas m'égarer terrain où...
Non, mais absolument, c'est qu'évidemment, en orchestre, on doit souvent créer des projets assez, comment dire, avec une certaine vision à long terme pour plein de raisons différentes, soit parce que l'économie fait qu'on est de l'orchestre, on est fait que ce n'est pas très poétique ce que je dis, mais on est obligé de mutualiser les projets pour essayer de faire un programme plusieurs fois, etc. Donc, d'une certaine manière, tout ça rentre en compte, en ligne de compte. Et quand vous faites venir, par exemple, c'est très spécifique, les symphonies de Haydn, très souvent, vous avez deux cordes au bois, quelques vents, mais c'est pas forcément énorme. Dans ce cas-là, vous avez pas beaucoup de choix entre faire tout un programme Haydn, mais si vous voulez faire un programme combiné, vous allez avoir forcément beaucoup de musiciens qui ne joueront pas une partie programme. Enfin, il y a plein de choses comme ça.
Voilà. Et alors, pour parler cuisine, ça doit être quand même une organisation démentielle de créer un orchestre comme ça, d'organiser des répétitions. Vous fonctionnez sur des projets, encore une fois. Mais là, par exemple, vous vous retrouvez au Folle Journée de Nantes à donner ses concerts, sans compter que Stade au beau milieu, avec ses sérénades de Brahms, ce concerto de Haydn, et puis à Stadt, une symphonie de Beethoven.
Oui, c'est ça, la quatrième.
Donc, et comment ça se passe au niveau des répétitions, lieux
C'est un petit peu la même chose que dans le cas d'un festival qu'on crée, c'est l'épreuve du réel. Et moi, je trouve ça très, très sain. Je trouve ça très difficile, pour être très honnête. C'est très difficile, c'est sans fin, mais c'est très sain. Et ça participe de ce que je disais tout à l'heure sur les exemples avec lesquels j'ai grandi, de musiciens qui ont créé des identités en créant leur orchestre, leur ensemble. Et je trouve ça très sain d'être confronté à tout ça, à tous ces problèmes quelquefois logistiques, tout simplement, bassement logistique. Il y a un côté frustrant parce qu'évidemment ça nous prend trop d'énergie et qu'on aimerait mettre purement dans la musique, etc. Mais en même temps, je trouve ça très sain parce qu'on se rend compte qu'un orchestre c'est aussi une société, ça s'inscrit dans la société, c'est forcément des tels budgets aussi que c'est des choix qui sont faits par des sociétés aussi de mettre ça dans un orchestre. Donc tout ça, je trouve est passionnant parce que ça permet aussi de se poser tout le temps une sorte de cette question incroyable à laquelle on n'a pas vraiment une réponse unique, mais qui permet de se la poser sous plein de questions différentes. Quelle est la place de l'artiste dans la société au sens le plus concret du terme?
Et puis pour le moment, cette double carrière entre guillemets s'équilibre, violoncelle, direction d'orchestre.
C'est le but.
Et on ne sait pas du tout comment ça va s'orienter à l'avenir, si vous arriverez à garder cet équilibre.
C'est exactement ça.
Bon, pour le moment, ça tient.
Mais par nature, de toute façon, un équilibre de cette sorte-là, c'est l'équilibre dans le déséquilibre. Et c'était déjà le cas avant. De toute façon, avec ce genre de carrière de freelance, entre la musique de chambre, le solo, des groupes constitués, la musique contemporaine, la musique baroque, tout ça, c'est déjà des équilibres, dans le meilleur des cas, subtils, si ce n'est de toute façon, de manière chronique, des déséquilibres. Et là, ça ne changera pas de ce côté-là.
Bon, enfin, on sera toujours heureux de vous écouter, Victor-Julien Ferrière, que ce soit à la tête de l'orchestre Consuelo, au violoncelle ou aux deux, comme vous pouvez le faire, vous pourrez le faire l'année prochaine dans le concerto de Schumann, et comme vous l'avez fait avec les variations rococo de Tchaïkovski récemment au Théâtre des Champs-Élysées. C'est une prouesse, ça. Déjà à jouer des variations rococo, mais en plus de jouer avec l'orchestre, ça veut dire un travail en amont énorme, non?
C'est un exercice, le jouer dirigé, comme on dit, c'est un exercice qui devient presque habituel pour beaucoup d'orchestres maintenant. C'est-à-dire que un pourcentage forcément incroyablement élevé dans les saisons, mais chaque saison, pratiquement tous les orchestres ont un concert qui se passe de cette manière-là. Et notamment, selon les pièces, ça peut même très très bien s'y prêter, comme des concertos de Haydn, donc du répertoire classique, ou les variations rococo. Je trouve que ça s'y prête très bien, parce que l'orchestre a un rôle relativement mineur, c'est vraiment de l'accompagnement. Le violoncelle tient le rôle du danseur étoile, et l'orchestre est vraiment dans l'accompagnement pur. C'est-à-dire que le violoncelle, c'est entre le danseur et la cantatrice, un peu.
Enfin, vous le faites aussi avec le premier concerto de Shostakovich, quand même.
C'est vrai, et on le fera avec Consuelo aussi.
Plus pointu pour l'orchestre, quand même.
C'est vrai, c'est pas forcément beaucoup de temps supplémentaire. En fait, une bonne partie de la difficulté est comblée par l'orchestre, par l'attitude de l'orchestre, le fait de les mettre encore plus à contribution, le fait que chacun soit encore plus responsable du résultat, responsable du bon déroulement. Et ça, c'est en général, de la vie générale, même de la vie des musiciens, des orchestres, que ce soit, là j'ai fait cet exercice-là aussi avec l'Orchestre de Chambre de Paris ou d'autres, ou l'Orchestre de Chambre de Vienne, c'est souvent un rapport qu'ils aiment beaucoup, parce qu'il y a quelque chose de très naturel de converser du point de vue du violoncelliste avec un orchestre, d'instrumentiste à instrumentiste. C'est très agréable d'une certaine manière. Donc il y a un rapport qui est très sain là aussi, qui me plaît beaucoup.
Nous aussi, en tant qu'auditeurs, spectateurs, c'est toujours un vrai bonheur d'écouter un soliste intégré à l'orchestre, soit un pianiste, comme on pouvait voir Murray Perahia ou Barenboim le faire dans les concertos de Mozart.
Exactement. Lav Chani dans La Jeune Génération.
Oui, alors lui aussi, exemple. Une sorte d'extraterrestre.
Exactement.
En tout cas, Victor-Julien Lafferrin, on se réjouit de cette parution chez Mirare de ces deux sérénades de Brahms, le début d'une aventure discographique. J'espère que vous n'abandonnerez pas l'aventure discographique que vous menez au violoncelle.
Il n'en est pas question.
Et bah écoutez, j'espère vous avoir l'occasion de vous revoir à nouveau et de pouvoir m'entretenir avec vous à nouveau pour parler violoncelle et orchestre, sans que l'un prime sur l'autre. Et puis on vous retrouve à Nantes et en plein d'endroits. Ceux qui arriveront à faire Nantes Ekstat aussi en février seront très forts.
Exactement, et il y a une partie de l'orchestre qui fera les deux.
En tout cas, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
Merci à vous.